Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser l'épisode de Monday Night Raw. Nous sommes à quelques jours de Crown Jewel et il s'est passé des choses. On a eu du catch, on a eu de la poussière verte et on a eu du divorce en main event. Et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi mon compagnon de toujours, Chris. Salut Chris.
Salut mon IRM, partenaire de Tag Team Catch Up. Salut peuple de Catch Up. Bienvenue dans le monde merveilleux du vaisseau amiral de la WWE.
Ah, si tu me rends triste quand tu cites le nom d'amiral, ça me fait penser à tous ces chroniqueurs tombés sur le champ de l'analyse du podcast de Catch Up.
Tombés au champ d'honneur.
Oui, et oui, c'est Last Animator Standing. Il reste plus que toi et moi. False Count Anywhere. Ah bah d'ailleurs, on en a eu un de False Count Anywhere. On aura le temps d'en parler. Mais c'est pas avec Seth Rollins et Eric Rowan que le show a commencé. Non. C'est bien avec Paige. La musique de Paige retentit. Grosse pop hein, pour la dorénavant manager. Même si on la voyait plus, hein, elle était manager des Kabuki Warriors. Et justement, elle nous en parle. Des Kabuki Warriors qui sont là également. Qui rejoignent Paige. Elle est fière de ces deux poulains qu'elle a poussés. Effectivement, on se souvient de cette drôle de combinaison qui avait été faite à l'époque. C'était il y a 6 mois déjà, qui n'avait pas donné grand-chose sur le moment. Et puis quand Paige est un peu disparu, bah, les Kabuki Warriors en ont profité pour s'emparer de ces belles ceintures de championne par équipe. Donc elle est très fière, Paige, sauf que visiblement, elles sont plus sur la même longueur d'onde, les deux japonaises. Asuka prend son micro et Sane fera la même chose. Parlant japonais de façon assez diabolique, hein, on sent que ce qu'elles disent, c'est pas très gentil. J'ai l'impression qu'elles nous jetaient des sorts lorsqu'on est dans un film d'horreur japonais. D'ailleurs, Kairi Sane a dorénavant un tout nouvel accoutrement. Un petit peu en mode fantôme geisha, là, fantôme avec son ombrelle, qui était, je trouve, vraiment du plus bel effet. Elles sont vraiment bien coordonnées, ces filles. Il ne reste plus qu'à leur trouver un theme song. La chose qui reste à faire. Et Paige, elle comprend un petit peu qu'elles sont vraiment plus, que les filles ne sont vraiment plus sur la même longueur d'onde. Et ça se chamaille jusqu'au moment où Asuka crash donc le Green Mist au visage de Paige, qui n'y voit plus rien. Elle gueule, je peux plus rien voir. Becky arrive. Becky qui était un petit peu effectivement qui a eu maille à partir avec les deux japonaises débarque, grosse brawl et ça nous a donné un match. Becky Lynch, Kairi Sane, qui était ma foi très très bon, j'ai trouvé. Kairi Sane a eu vraiment le temps de bien nous montrer son moveset, ça a duré 15 minutes quand même. On est à Monday Night Raw hein, dorénavant, les matchs durent plus de 5 minutes. Et à la fin, Becky Lynch contre dans un disarmeur et Kairi Sane n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Victoire de Becky Lynch, mais j'ai trouvé ma foi que c'était vraiment un bon opener et j'aime beaucoup, beaucoup cette tag team de Kairi Sane et Asuka. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution des deux japonaises là? Est-ce que ça prend là et est-ce qu'elles ont bien fait de cracher du Green Mist au visage de Paige, qui était déjà bien, suffisamment. Est-ce qu'elle n'est pas suffisamment maquillée comme ça, Paige?
Oui, elle est gravement maquillée déjà, donc ça n'a fait que rajouter. Mais du coup, c'était le retour des femmes à Raw, donc déjà première, puisque l'année dernière elles avaient été blacklistées.
Et j'ai un point là pour la note.
Ouais, et du coup, écoute, moi aussi j'ai trouvé que c'était un bon opener. On a eu, moi en fait j'ai trouvé ça vachement bien que Paige vienne, parce qu'effectivement elle avait disparu sans aucune raison, sans aucune explication. Donc du coup elle débarque et donc on se doute qu'elle va un peu expliquer ce qui se passe avec les Kabuki Warriors. Et j'ai trouvé que c'était bien pensé, que c'était bien fait ce truc là, quoi, que c'était sympa. Et pour aligner encore plus vers le côté obscur de la force. Les Kabuki Warriors, et bah, c'était parfait. Et derrière, je ne m'attendais pas forcément, tu vois, comme c'est la Tag Team Division, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit Becky qui débarque. Donc voir Becky débarquer, c'était d'autant plus une surprise. Et derrière, ça nous a mené vers un bon petit combat entre Zayn et Becky Lynch, où elles ont bien donné, ouais, et vraiment, vraiment, vraiment agréablement surpris par cet opener. Ça change de SmackDown, ça!
Ah, ça y est, ça commence à des tirs à balles réelles. Là. On commence déjà à fuser avec Chris.
En ce moment, Raw plus par rapport à SmackDown, non?
Après, on en parlait effectivement. De toute façon, ce que vous aimiez à SmackDown il y a 2 ou 3 ans, c'est à Monday Night Raw que ça se passe dorénavant.
C'est ça.
Que ouais, bon opener. Moi, j'adore Carisen, son nouveau gimmick. Les deux là sont parfaitement diaboliques. Elles ont, Asuka avec son maquillage vert qui coule des yeux et sa bouche là, son visage qui était repeint du green mist après avoir craché au visage de Paige, qui visuellement, ça donnait super quoi. C'était un rendu visuel, c'était vraiment, je trouve impressionnant quoi. Ça marche bien ces deux filles là et je suis vraiment content effectivement de les avoir vues en opener donc. Donc, effectivement, c'est un peu à côté de la plaque par rapport à ce qu'on est en train de build pour Jewel ou les même les Survivor Series, mais on s'en fout, on se plaint suffisamment de Crown Jewel qui déborde partout que commencer avec cet opener, c'est assez frais.
Ouais, puis au-delà de la tag team division féminine, moi je suis assez client d'une rivalité Asuka-Becky dans la title picture. Hein. Moi, franchement, si demain ils commencent à organiser une rivalité dans ce sens-là, je signe dès demain.
Ouais, en plus, Asuka avait battu Becky Lynch, hein, c'est ça, pour lui prendre le titre. Ouais. Et effectivement, ouais, il y avait des belles confrontations avec Charlotte aussi. Et du coup, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Asuka, Becky Lynch. Les graines sont plantées, en tout cas. Ça, c'est clair. Donc, une belle affaire à suivre. On reparlera des filles un petit peu plus tard, puisque une grosse nouvelle est tombée, mais on y reviendra. Buddy Murphy, R-Truth. R-Truth, il est au milieu du ring. Il se fait interviewer. Il a perdu son titre 24/7. Il nous explique qu'effectivement, enfin, il apprend un petit peu. Il a l'air de tomber du ciel, là, en apprenant que les Singh Brothers, là, ou les Hollywood Brothers, comme ils s'appellent dorénavant, Hollywood Boys, sont deux frangins, donc ils sont deux. Et du coup, R-Truth, eh ben, il est malin. Pour avoir les yeux sur chacun des frangins, il allait chez l'ophtalmo, chez l'opticien, il s'est acheté une belle paire de lunettes. Et du coup, maintenant, il peut garder les yeux sur les deux frangins en même temps. Buddy Murphy débarque pour un match face à R-Truth. Il le provoque en lui expliquant que c'était pas dingue hein, comme promo, en lui expliquant qu'il allait faire en sorte que R-Truth se souvienne de son nom. Le match commence rapidement, t'as toute la smala là, de Lockharder qui court autour du ring pour essayer de choper le championnat 24/7 parce que t'as les frangins, les Hollywood Boys là, qui débarquent aussi, donc on est en mode circus là où tout le monde tourne autour du ring, y compris R-Truth. Et quand R-Truth revient sur le ring, il se prend un gros coup de genou, je crois, et c'est terminé pour R-Truth. Donc, victoire de Buddy Murphy. Trop ce que ça a apporté, tout ça, finalement. Buddy Murphy, on espère le voir dans des plus longs matchs, quand même.
Ouais, depuis dans d'autres circonstances que pour le Roll-Up Championship, quoi, parce que du coup, voilà, on s'est retrouvé avec un segment Benny-Hillesque pour la ceinture 24-7. Et ça, c'était un peu pérave, mais c'était voilà. Sinon, ça, Buddy Murphy retrousse dans l'absolu sur le ring, c'était plutôt pas trop mal, mais ça a été tellement court qu'on n'a même pas eu le temps de se rendre compte si ça pouvait être encore mieux que ça.
Ouais, bah ouais.
Voilà, donc écoute, roll-up championship, mais pour le coup, on n'a pas eu de tentative de roll-up sur ce segment où tout le monde court autour du ring. J'ai noté qu'il y avait Eric Young dans les Lockharder qui courait après la ceinture. Et Eric Young, j'ai l'impression qu'il a pris un coup d'yeux incroyable. Là. J'ai pas l'impression que ça lui réussit beaucoup, la WWE. Et puis alors, ouais. Hors de Sanity, le pauvre, je crois qu'il est au fond du trou, quoi, le Eric Young. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ce segment-là.
Non, je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de choses à dire non plus sur ce qui a suivi. On a eu un petit package vidéo EOP, mais on s'en fout. Et après, il y a eu une grosse ambiance. Là, les Street Profits sont venus, ils ont débarqué en chanson, en musique, comme à NXT. Hein. Ils ont traversé la foule, ils sont passés à travers les coursives, ils étaient chauds là, ils ont chauffé le public. Ils s'emparent du micro. Ils nous expliquent effectivement, ils ont vaincu les aussi. Donc le clan de AJ Styles avec leur pote Kevin Owens qui ne fera pas d'apparition aujourd'hui, voilà, donc un petit peu étrange. Voilà, ils vont faire une petite after party. Enfin, ils ont fait une after party, pardon. Voilà, c'est une grosse ambiance. Ils ont fêté tout ça. Et donc, ils sont bel et bien là, dorénavant à Monday Night Raw. Et ils veulent la fumée. They want the smoke. We want the smoke. Tel est leur chant. Et ils repartent dans la foule pour faire un petit bain de foule. Écoute, j'ai trouvé ça très, très, très poussif. Beaucoup, beaucoup trop long. Et est-ce qu'il manquait pas un petit match pour, pour enrober tout, pour mettre tout, pour donner un petit peu de consistance à tout ça?
C'est surtout ça, parce que moi, j'ai trouvé ça hyper cool. L'entrée, déjà, le fait de ne pas les avoir en consultant de couloir, mais venir pour faire la promo dans la salle, où déjà, c'était cool. Grosse entrée, bien over auprès du public de Saint-Louis. Il y avait tout ce qu'il fallait. En fait, il y avait tous les ingrédients étaient là. Promo un peu bateau, quoi, mais effectivement, pour le coup, moi je m'attendais à avoir débarqué une autre tag team, quoi, et puis en voiture Simone, quoi, on y va pour un tag team match, quoi, mais non, pas du tout. Ils recélèbrent et en repartant dans le public, et puis ça s'arrête là-dessus. Et puis, comme tu l'as dit, absence quand même de Kevin Owens, et puis absence totale, puisqu'on le verra pas du tout de tout l'épisode. Donc après sa fracassante entrée de la semaine dernière, il disparaît ce lundi. Je pense encore une fois que c'est toujours dû à cette satanée affaire de Crown Jewel, et étant donné qu'il y participe pas, il a pas eu le droit d'exposition ce lundi.
Effectivement, du coup, c'est un petit peu retombé, c'est un petit peu étrange ce qui s'est passé là. Ouais, l'absence conjuguée de Kevin Owens et celle d'un match pour les Street Profits, j'étais pas bien. Non, c'est pas que j'étais pas bien pendant leur promo, mais ouais, au moins effectivement on les voit et ça pop, mais il manquait vraiment quelque chose, quoi, comme si ils avaient oublié de lancer un match, quoi. C'était assez étrange. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit saut dans le temps. AJ Styles, elle est un petit peu embêtée. On parlait des déchets, justement. Il est un petit peu embêté, Humberto Carrillo. Et il se moquait de lui en disant, ouais, t'as perdu contre Seth Rollins. Mais Seth Rollins, c'est pas un vrai champion. Si tu veux un vrai calibre de champion, eh bien, peut-être que tu devrais m'affronter. Donc, il se fait un petit peu bully, là, par le club. S'ensuit un match de 10 minutes, plutôt bien enlevé, toi, entre les deux. Et à la fin, AJ Styles donc, soumet Humberto Carrillo dans sa soumission, ce qui est bien, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et après, il se prend, je crois, un Styles Clash pour bonne mesure. Et les Street Profits qui reviennent. Tout ça était assez bizarre. Hein, les Street Profits qui reviennent pour aller à la rescousse de Humberto Carrillo, un bon petit match, une petite compétition là, AJ Styles Seth Rollins. Je sais pas trop ce qu'on est en train de construire là-dedans. Est-ce que toi t'aurais une petite idée là, ce qu'on est en train de faire? Est-ce que cet abandon là du jeune rookie là, Humberto Carrillo, qui avait déjà bien brillé, c'était pas un petit peu dommage de le faire taper aussi rapide, aussi facilement?
Ouais, je sais pas. En même temps, j'ai l'impression qu'ils essayent justement de le faire grimper un peu, le jeune, là. Ouais. Ce que j'ai trouvé étrange en segment, c'est le fait que ça soit AJ Styles qui vienne demander à un challenger de venir l'affronter, quoi, tu vois. C'est un peu bizarre de voir le champion dire « Ah bah ouais, bah viens, si tu veux affronter un vrai champion, c'est moi qu'il faut affronter. Ouais. »
Moi, je trouvais ça pas mal, parce qu'en fait, il le fait parce que Seth Rollins l'a fait et que du coup, il veut me prouver qui a les plus grosses couilles, quoi. Il veut me prouver qu'il est plus fort que Seth Rollins. Et qui va ridiculiser le petit jeune qui vient d'arriver, Humberto Carrillo. Là, il est dans une démarche d'aller faire chier le monde et de ridiculiser les petits jeunes, tout en se montrant que c'est lui le plus fort à la cour de récré. Il lui a pas proposé un match de championnat, toi. C'était pas un match de championnat, c'était juste un match pour de bully, quoi.
Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu ça. Et puis du coup, à voir après, à la fin, ils ont eu quand même 10 bonnes minutes dans un match plutôt pas mal. Humberto Carrillo, il s'est défendu et bien défendu, quoi. Il a été loin d'être ridicule face aux vétérans. Et puis du coup, à la fin, c'était plutôt sympa. C'était plutôt enlevé, ce petit truc-là, avec ce petit brawl-là sympa, les faces qui prennent le dessus et tout. J'ai plutôt bien aimé. J'étais content, pour le coup, de voir les Street Profits arriver. Sur le coup, je me suis même demandé si la cloche allait pas sonner et puis qu'ils allaient nous annoncer un tag team à 6, mais non, malheureusement, on n'a pas eu ça. On a juste eu droit au brawl sur le ring, quoi. Mais c'était, oh bah, c'était
plutôt sympa. Ouais, bah, il se le garde pour la prochaine fois, tu vois. Hein, pas oui, besoin de toujours tout faire dans la soirée. Hein, je trouve ça toujours plus intéressant, enfin, plus malin dans un sens de faire ça sur deux semaines. T'as effectivement une brawl, un match qui se termine mal et tu règles les comptes la semaine d'après. C'est pas genre, ah bah ça tombe bien, on avait justement 20 minutes ce qu'on n'avait pas prévu, où il n'y avait rien de prévu, alors on va faire un tag team, quoi. Je trouve ça toujours un peu étrange, ça donne l'impression vraiment que tout était déjà prévu, évidemment. Donc je trouve ça plus sympa quand il te tease, du coup, le match de façon organique la semaine d'après, et non pas le jour même où tu dis, ouais, bon, effectivement, c'était couru d'avance, quoi. J'ai beaucoup pensé à toi, Chris, ce soir-là, puisque on a eu droit à un Drew McIntyre versus Ricochet.
Again.
Eh ouais. La revanche entre les deux, dans un énorme match là de plus de 15 minutes entre l'Écossais psychopathe et Ricochet. On avait Jimmy Hart, Hogan et Flair qui étaient ringside. Donc voilà, on est toujours dans cette optique de booker l'affrontement entre les deux équipes des deux Hall of Famers. Ricochet se défend, hein, évidemment, tout comme il avait fait la dernière fois. Mais cette fois-ci, le final sera différent pour les bienfaits du 50-50. Au moment où Ricochet est en plein momentum, il se prend tout simplement un RKO de Randy Orton, le natif, hein, de Saint-Louis, évidemment, sous une énorme pop, ce qui a fait plaisir à tous ses potes, justement. Victoire donc de Ricochet par disqualification, dans un gros match, une grosse pop pour Randy Orton, emballé, c'est pesé. Je pense que là, on a suffisamment booké ce match entre les deux équipes pour Crown Jewel. Et une fois de plus, Drew McIntyre et Ricochet qui ont eu quand même 15 grosses minutes là pour nous montrer tout leur talent. Ces mecs, ils ont été draftés très très haut et c'était pas pour rien.
Ouais, pour nous montrer un super match, quoi. Clairement, un super match. Alors évidemment qui se termine avec une disqualification avec l'intervention de Orton, mais tout ça c'était bien goupillé. L'arrivée d'Orton, c'était bien sympa, ça a mis la salle encore plus en feu. C'était le match retour de la semaine dernière. Drew a gagné la semaine dernière. Cette semaine, c'est Ricochet qui gagne. Et que dire que comme c'est bon le catch quand ils envoient comme ça du pâté dans tous les sens, quoi. Il y a le Drew McIntyre, il met un back body drop, mais quand on voit le gabarit qu'il a, ce gars-là, pour porter des prises comme ça, on se dit, c'est fou, quoi. Ces mecs sont fous. Ces mecs sont des dingues. Et vraiment, alors là, j'ai kiffé. Hein. Déjà, la semaine dernière, de toute façon, j'étais resté scotché devant un combat qui avait été un petit peu moins long. Là, en fait, ils en ont rajouté du near fall, de la totale. Là, alors, ouais, moi j'étais dans mon jus.
Ouais, ouais, bah clairement, on nous racontait que McIntyre, Ricochet, voilà, c'est le round 2. Et effectivement, c'était beaucoup plus disputé comme affrontement, hein, finalement. Et Ricochet a même failli prendre le dessus. Au final, la petite intervention vicieuse de Randy Orton qui vient nous rappeler quand même c'est qui le patron de tout ça et qui célèbre cette belle victoire avec Drew McIntyre et Ric Flair. Ric Flair qui se voit déjà vainqueur. Hein. Là, il n'y a pas de souci pour cet affrontement. Les Heels sont bookés très très fort. Là, cette team de Heels est bookée très très forte. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, les petits gringalets en face. Peut-être que la réponse, elle est très simple. Hein. C'est Roman Reigns et puis c'est tout.
Ah bah, je pense que l'arme fatale de l'équipe de Hogan, c'est clairement Roman Reigns, hein, de toute façon. Donc là, c'est le powerhouse de l'équipe, même s'il y a Rousseff. Mais pour moi, Reigns est encore plus impressionnant que Rousseff physiquement. J'avais une question à te poser sur ce truc. Le 5 contre 5, là, c'est un elimination match ou c'est un match au meilleur du premier tombé?
Alors là, tu me poses une énorme colle. Je pense que c'est... Ah, je sais pas.
Pas trouvé de stipulation. Sur les cartes annoncées pour Crown Jewel.
Pour l'instant, il n'y a pas de stipu. C'est vrai qu'un match par élimination serait quand même vachement.
Pour l'instant, il n'y a rien de précisé par rapport à la stipulation de ce combat.
Après, des fois, c'est un peu compliqué de faire des matchs avec une telle stipulation que tu vois les Golgoths qui sont en face d'un côté. C'est difficile à imaginer dans un tel stipu qu'une équipe où tu as 5 gros costauds, ou 4 en tout cas. Nakamura est un peu plus petit gabarit, mais enfin, voilà, les 4 autres, là, c'est quand même des armoires à glace. Donc écoute, pour l'instant, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, je ne sais pas s'il y a une stipu, on verra. Ça va peut-être se décider au dernier moment, puisque visiblement, Crown Jewel, on décide des choses au dernier moment. La preuve, puisque Charlotte et Natalia affrontaient les Iconics ce soir. Alors, on va comprendre, Charlotte et Natalia en équipe, alors que Charlotte, il y a une semaine ou deux, c'était à rabibocher avec les Sea Events. Là, revoit la copine avec Charlotte. Bah, écoute, pourquoi, voilà, c'est ta gueule, c'est magique, comme on dit. Un match très, très, très oubliable. On voit les Iconics, c'est peut-être le plus important à retenir. Et la victoire des deux babyface, Charlotte et Natalia. Bon, ouais. Ça, c'est pas forcément le plus important, je serais tenté de dire. Le plus important, c'est la big news, Chris. La big news, c'est que à Crown Jewel, c'est tombé là, durant cette nuit, à Crown Jewel, nous allons assister tout simplement au premier match féminin de l'histoire, puisque Natalia va affronter Lacey Evans en Arabie Saoudite. La news est tombée comme ça, c'est assez incroyable quand même, comme info. Un gros coup là, évidemment, de la WWE en termes de publicité, mais pas que, puisque c'est la première fois. Enfin voilà, tout simplement, les femmes sont interdites de spectacle. Dans ce bon royaume d'Arabie Saoudite, et là on va avoir un match. Alors peut-être qu'elles seront couvertes des pieds à la tête, et peut-être qu'ils vont éteindre les lumières et que les hommes tourneront le dos au match, mais malgré tout, la WWE a réussi un sacré tour de force s'ils vont jusqu'au bout.
Ouais, vraiment surprenant, ça, c'est confirmé, ça, c'est confirmé officiellement, la WWE.
Ouais, annonce la WWE sur le compte Twitter officiel. Sur le compte
Twitter officiel, d'accord, ok. Bon bah écoute, si c'est confirmé officiellement, hein. Ouais, c'est je suis particulièrement surpris, surtout je suis particulièrement surpris du fait que ça tombe deux jours avant. Donc c'est assez incroyable. Je sais pas quelles ont été les négociations avec l'Arabie Saoudite pour ça. Comme tu l'as dit, je me demande dans quelles circonstances ça va se passer, dans quel contexte ça va se passer ce match-là. C'est assez ça peut être assez bizarre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous réserver là-dessus, mais du coup ça sera un moment intéressant à suivre dans le pay-per-view parce que ouais, ça amène plein de questions. Cela dit, pour la cause des femmes en Arabie Saoudite et ailleurs au Moyen-Orient, ça serait, si effectivement ça se passe et que ça se passe dans des conditions, on va dire, à peu près normales de catch à la WWE, ça sera une grande avancée, quoi. Parce que là, ça sera vraiment pour le coup une vraie première historique. Même si je crois que dans un house show, c'était déjà arrivé, je crois que Sasha Banks avait catché dans un house show au Moyen-Orient, mais c'était pas en Arabie Saoudite, je crois que c'était ailleurs.
Ouais, c'est dans un autre pays. Elle avait affronté, je crois, Alexa Bliss. Et elles étaient couvertes des pieds à la tête, quoi.
Ah ouais, elles étaient couvertes. J'avais pas vu le match, mais elles étaient couvertes des pieds. Qu'est-ce qu'elles étaient couvertes des pieds à la tête?
Bah, elles avaient une combinaison, si tu veux, qui recouvrait les jambes jusqu'au bras, quoi.
Oui, elles vont avoir des combis. Ouais, d'accord. Ah ok, je comprends. Ouais.
On voyait leur tête,
pour Natalia, c'est pas tellement problème, puisque c'est à peu près sa tenue. par contre, les Sea Evans, ouais, du coup, les Sea Evans, parce qu'elle qui est quand même habillée de manière assez léger, il va falloir la saper, les Sea Evans. Mais je pense que ça va lui faire plaisir de bosser avec la costumière de la WWE, n'est-ce pas, mon ami RM? Je t'ai perdu ou quoi là?
Je suis là, mon bon.
T'entendais plus, excuse-moi, il y a eu un truc.
Donc, ouais. Est-ce que tout ça dépend encore un coup du royaume d'Arabie Saoudite? La censure.
La censure, tu veux dire?
Bah, la censure. Qui essaie de nous couper, là, ils ont essayé de nous couper, toi et moi.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça, tiens, mais ouais, mais voilà, mais.
Par hasard.
Le complot!
Qu'est-ce que tu penses de ma petite idée de booking là, que j'ai mise sur le Discord? Parce que nous avons un Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Moi, j'aimerais. Est-ce que je kifferais Lacey Evans, Natalia? Je kifferais que le finisher, ce soit le Woman's Right. Parce que le finisher quand même de Lacey Evans, c'est le Woman's Right. Donc voilà, politiquement, c'est assez engagé comme finisher. Moi, je vois bien, le match se déroule, et au bout de quelques minutes, on a une intervention du roi qui va annuler le match, parce que lui, il n'avait pas donné son accord. C'est le prince qui est progressiste, qui a en fait négocier avec Triple H en secret. Le prince débarque, il fait un gros run-in, ça part en couille entre le père et le fiston, et Lacey Evans place un woman's right sur le roi d'Arabie. Elle devient l'icône de la révolution féminine dans tout le Moyen-Orient, elle est célébrée à travers le monde, les écoles portent son nom, des stations de métro sont renommées en Lacey Evans, et on a une nouvelle icône pour les 100 et 200 prochaines années, Lacey Evans, la révolution féminine. Est-ce que ce serait pas quand même fantastique?
Ah, ça serait, si c'était vraiment ce scénario-là, ça serait totalement incroyable, quoi. Après, je sais pas, aux États-Unis, quel impact ça a, le fait que les femmes aient accès. Je pense que la WWE, là, on avait marre de prendre des sauts de merde, justement, avec cette histoire de contrat avec la W, avec l'Arabie Saoudite. Et que le fait, en plus, que les femmes n'y soient pas, là, ça, du coup, ça collait pas du tout. Donc, que la WWE ait réussi à arracher un petit match dans un énorme house show comme ça, c'est quand même, faut reconnaître que ouais, c'est assez surprenant. Et puis c'est une bonne chose pour Lacey Evans et Natalya. Au final, elle se retrouve en plein dans la lumière. C'est elle qu'on aurait pu penser qu'ils iraient chercher peut-être d'autres stars féminines, mais du coup c'est ces deux-là qui collent. Alors du coup, en même temps que tu parlais, je regardais un petit peu et apparemment il y aurait deux autres femmes qui seraient annoncées. Alors pas forcément. Peut-être au micro, je ne sais pas, mais apparemment, il y aurait Renee Young et Lana qui seraient pas loin.
Ah bah, Renee Young, effectivement, probablement au commentaire. Mais elle n'était pas déjà au commentaire l'année dernière ?
Au commentaire, non, je ne pense pas. En tout cas, moi, là, de ce que j'ai lu, elle n'est pas annoncée au commentaire. Elle est annoncée à être présente. Et Lana est annoncée à être présente aussi dans le show. Mais bon, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. On verra ce qui va se passer jeudi soir. Comment ça se fait que je ne t'entends pas à nouveau ?
Je ne sais pas. Allô, allô ?
Voilà, là je t'entends. Ah, mais c'est quoi cette affaire là? Il y a un complot contre Ketchup, ça va pas du tout.
Ouais,
voilà.
Bon là par contre on parlait des Viking Raiders, donc je vois pas trop pourquoi il y a un complot. Mais
c'est des Viking Raiders, donc du coup moi j'ai été encore sur Lacey Evans et Natalya.
Les Viking Raiders donc qui ont disposé donc de jobbers non pas locaux puisqu'ils sont de Chicago, des Chicago Cubs. Voilà, ça c'était le petit squash de la semaine, un peu triste, vu que la seule différence c'est qu'ils sont champions, mais que rien n'a changé, visiblement, pour les Viking Raiders. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur leur cas ?
Non, hormis le fait que voilà, ils continuent à brutaliser des jobbers, mais on comprend pas trop, puisqu'en fait ils tournent en rond, ils sont revenus, ils ont chopé la ceinture, et puis depuis, à nouveau, ils affrontent que des no-names, donc c'est assez surprenant ça. Mais bon.
Ouais, c'est même assez merdique à vrai dire. Andrade avait un match contre Sin Cara ce soir, mais Sin Cara n'est pas venu.
Encore un match retour.
Encore un match retour, mais Sin Cara cette fois-ci n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu accompagné d'une luchadora, donc une catcheuse masquée qui s'appelle Catalina.
Catalina Garcia, son nom complet, exactement.
Oh, bah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette luchadora ?
C'est difficile à en dire beaucoup plus parce que ça doit être une nénette qui est au Performance Center parce que c'est une toute jeune nana. Elle a, je crois, 18 ou 19 ans. Donc oui. Là, pour le coup, c'est vraiment une nénette qui est vraiment en ouverture de carrière. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant d'opposer comme ça ces deux couples et avec Katarina qui, pour le coup, est une vraie catcheuse masquée en plus. Donc, oula, attention!
Ouais, est-ce que c'est pas la première fois qu'on aurait une catcheuse masquée, une luchadora, puisque c'est comme ça que l'on dit, officiellement dans un roster WWE?
Ah bah oui, je crois que c'est une première. Je crois que là, j'ai, de mémoire, vraiment, j'ai jamais vu, à part dans des circonstances voilà, où des femmes se sont masquées pour telle ou telle raison. Je me rappelle de Becky pendant un temps qui portait une coupe bleue avec son masque rouge là. Une vraie luchadora, pur sucre, pur Mexico. Et ben là, ouais, effectivement, c'est une première historique à Raw.
Bon, en tout cas, ça n'aura pas beaucoup aidé Sin Cara pour sa victoire, puisque alors que Catalina et Zelina Vega se disputent à l'extérieur du ring, Andrade en profite pour faire le tomber sur Sin Cara en utilisant les cordes pour s'appuyer. Donc nouvelle victoire du Mexicain, mais voilà, la donne a changé. Catalina est là dorénavant et Zelina Vega veut régler ses comptes avec cette nouvelle catcheuse. Donc, je crois que même qu'on a déjà quasiment booké un match entre les deux pour la semaine prochaine. Donc, un nouveau visage, même s'il est masqué, qui a rejoint donc, le roster féminin. Moi, je suis assez excité ouais, par cette addition au roster, puisque c'est effectivement ça, on enrichit avec un nouveau profil, un roster féminin, même si bon, pour l'instant, elle a le rôle de valet, mais c'est assez, je suis assez, assez excité. Ouais.
Moi, ce qui est en plus assez exceptionnel, c'est que je pense que cette fille, moi en tout cas, de mémoire, je ne l'ai jamais vue à NXT. Donc, elle est envoyée direct dans le roster alors qu'elle est vraiment très jeune. Et finalement, mettre une partenaire à Sin Cara, c'est peut-être aussi pour remettre un peu de momentum sur le pauvre Sin Cara, quoi, quand même largement. Mais bon, quand même, quelle grosse domination de Andrade, quoi. El Idolo, il y va. Qu'est-ce qu'il envoie, quoi. Lui, comme j'aimerais le voir plus haut dans la carte. Lui, il est capable de nous sortir des matchs énormes, quoi. À NXT, il s'était octroyé un petit 5 étoiles avec Johnny Gargano. Mais Andrade, franchement, si on lui donne du temps, il y a moyen qu'il nous sorte un truc énorme.
Effectivement, ça va venir pour Andrade, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour lui. Du coup, on s'approche tranquille. Pardon ?
Burn it down !
Exactement. On avait un match False Count Anywhere ce soir entre Seth Rollins et Rick Rowan. Dans un match où on pouvait faire le tomber n'importe où. Alors, ce match était booké assez étrangement. Visiblement, c'est Rick Rowan qui s'est un petit peu mêlé de cette affaire, puisque Seth Rollins en avait après The Fiend, après Bray Wyatt. Ils en ont même parlé dans les commentaires qu'ils ont mentionné les liens entre Bray Wyatt et Rick Rowan. Assez étrange. Le match commence, alors on va rapidement à l'extérieur du ring, on va dans les coursives, on détruit des stands de merchandising, alors le vendeur il était vraiment pas content, le vendeur de t-shirts, et on se retrouve un petit peu plus tard dans le parking, et Seth Rollins place Eric Rowan sous le chariot élévateur. Et il demande à un pauvre gars dont c'est le responsable conducteur du chariot d'écraser. Alors, il demande de faire le sale boulot, hein, d'écraser Rick Rowan. Eric Rowan, donc, il est écrasé sous le chariot élévateur et fait le tomber en étant debout là sur Eric Rowan, pardon. Et au bout de 15 minutes, donc victoire de Seth Rollins. C'était un petit peu étrange tout ça. Moi qui imaginais Eric Rowan détruire les mecs de 205 semaine après semaine, il se retrouve à perdre son premier match face à Seth Rollins dans une stipu un petit peu étrange. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Eh ben, on notera que Seth Rollins, il n'a pas son brevet de chariste déjà, quoi, puisqu'il n'a pas pu utiliser lui-même le Fenwick. Il a fallu qu'il y ait un mec qui était là pour le faire. Après, c'était. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal ce match. Hein. J'ai trouvé que ça envoyait pas mal. Rowan, j'aime bien Rowan, comment il est en mode monstre là depuis qu'il est revenu dans le roster. Là, il est. Il veut démolir tout le monde. Il est vraiment en mode destruction, quoi. C'est donc je le trouve plutôt pas mal dans ce style là. On notera que Harper a à nouveau disparu. Alors, je me rappelais plus justement. Je me suis posé la question pendant que je le regardais.
Il y a SmackDown, non ?
Je me posais la question justement. Est-ce que Harper il a été drafté à SmackDown ou à Raw, ou est-ce qu'il est resté à SmackDown ? Mais non, il est resté à SmackDown. Donc du coup, écoute, voilà. Donc je sais pas quelle direction ils vont donner à Eric Rowan dans le futur, mais en tout cas, si c'est pour nous faire des matchs comme ça en mode destruction et avec cette tête là qu'il a là. et puis voilà un finish. J'essayais de me rappeler, il y a déjà eu plein d'interventions comme ça, de trucs de Fenwick, de trucs comme ça, et tout ça, c'est déjà arrivé, mais je me souvenais pas vraiment d'un tombé porté avec la plateforme du Fenwick, quoi. J'ai trouvé ça.
Ça me dit quelque chose. Par contre, ce que j'ai trouvé étrange.
Avec Ken et Daniel Bryan, non, il n'y a pas eu un finish un peu comme ça entre Ken et Daniel Bryan, il me semble, mais je sais pas, j'avais un doute, quoi.
Ouais, non, on a déjà vu des choses comme ça, peut-être que nos auditeurs pourront nous rafraîchir la mémoire, mais c'est effectivement déjà arrivé. Par contre, est-ce que légalement tu peux faire le tomber en étant debout sur le Fenwick et non pas debout sur ton adversaire ?
C'est une très bonne question, parce qu'en réalité, tu ne touches pas ton adversaire, donc là, il y a un point de règlement à étudier fortement, ami officiel de la WWE. Est-ce qu'à partir du moment où il n'y a pas de contact physique, est-ce que le tombé est bien valable ?
J'aimerais voilà, une communication officielle de la WWE à ce sujet, donc, puisqu'ils sont visiblement très à l'écoute de notre podcast. La demande est officielle. On veut savoir si le tombé était légal. on arrive, alors, en parlant de choses légales, on arrive à notre main event, celui qui a fait couler beaucoup d'encre et pleurer beaucoup de personnes. Ce soir, nous avons tout simplement un King's Court spécial, puisque c'est un King's Divorce Court, donc qui va voir Jerry Kinglaler essayer un petit peu d'être le modérateur dans cette histoire de triangle amoureux entre Rusev, Lana et Bobby Lashley. Donc on va essayer un petit peu de faire un... de résoudre tout ça à l'amiable. Lana et Rusev sont là. Rusev est visiblement toujours amoureux. Hein. Il a toujours sa bague de mariage. Visiblement, il cherche à résoudre cette affaire, mais Lana, elle est en colère. Elle est en colère. Et quand Jerry le King Lawler demande à Lana pourquoi elle est allée se jeter dans les bras de Bobby Lashley, Lana a visiblement beaucoup de griefs auprès de Rusev. Peut-être un peu trop parce que ça part dans tous les sens, mais surtout elle commence par le premier grief qui semble être celui qui l'a motivé, c'est que Rusev est un accro du sexe et qu'il voulait. Il voulait forniquer tous les jours, n'importe où, n'importe quand, à la maison, dans la cuisine, dans l'ascenseur, dans les vestiaires, sous le ring. n'importe quand. Rusev voulait du sexe tout le temps. Alors, Rusev explique. Rusev dit, can you blame me? Est-ce que tu peux m'en vouloir pour ça? En demandant presque genre en demandant ça au public et à Jerry Kimmler qui fait bah non effectivement tu as raison Rusev, je te comprends. Et Lana commence après à partir en couille en disant qu'en fait c'est parce qu'il voulait la faire tomber enceinte, qu'il l'a jamais aimée, tout ça c'était parce qu'il voulait une famille, enfin qu'il voulait juste avoir un petit Rusev. Rusev dit, mais non, moi, c'est parce que je voulais élever. Oui, évidemment, je voulais élever une famille. Mais Lana dit, mais moi, je peux pas être tombée enceinte. Je peux pas regarder, mon corps est parfait. Je suis une influenceuse dans le monde de la mode. Je suis une mannequin. Je peux pas devenir une mama Rusev. et puis, en plus, Rusev, tu m'as trompé. Et parce que Bobby Lashley me l'a dit. Alors, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bobby Lashley t'a dit ça? Oui, il me l'a dit. Bobby Lashley débarque. Grosse bagarre. La pop commence à monter hein, pour Rusev, le public est est pas mal derrière lui. Rusev prend sa bague de mariage il la fourre dans la bouche de Bobby Lashley. Lana arrive avec le kendo stick, le Rusev il nocelle complètement les coups de kendo. Je sais même pas s'il s'en est rendu compte. Ça suffit à le distraire, gros coup dans les valseuses de Bobby Lashley et le nouveau couple qui s'embrasse de façon très lascive et Rusev qui gît au pied de ce couple diabolique en se tenant sa paire de couilles blessées, cœur blessé, couilles blessées, Rusev au sol. C'était notre main event de Monday Night Raw.
Bullshit. Bullshit. Non, mais c'est pas possible, sérieux, quoi. C'est pas possible qu'ils nous aient mis ça en main event. Carrément le main event de Raw, quoi. Non, mais moi, alors là, j'ai réagi, je crois, sur le Discord quasiment tout de suite après à mon visionnage, quoi, en recitant ce bullshit, parce que vraiment, okay, moi, je mets un énorme carton rouge à la WWE pour ce main event de Raw. C'était, pour moi, absolument merdique, et... autant j'aurais pu comprendre, j'aurais trouvé ça merdique, mais je l'aurais accepté si ça s'était arrivé en milieu de show, voire allez, même en opener, j'aurais queené, mais je l'aurais accepté. Mais là, après, en plus, un Raw que globalement j'ai trouvé plutôt de bonne qualité, avec beaucoup de catch et avec le booking de Crown Jewel d'évacué. Bref, je lui trouvais pas mal de qualité à ce Raw. Mais finir là-dessus. Non mais holy shit quoi, non mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, mais qu'est-ce que c'était? Moi écoute, apparemment ça a fait un carton sur YouTube, en plus le segment il a été revu je sais pas combien de centaines de milliers de fois sur YouTube, Mais alors moi, je n'accroche mais alors absolument pas à ça. Et venir me bousiller mon main event d'Euro avec une merde, une bouse absolue comme ça. Ah non, 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 là, franchement, non. Carton rouge.
C'était... je vais être honnête, hein. Je vais être honnête. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer tellement c'était ridicule. Et qu'elle explique que c'est parce que Rousseff, c'est juste un obsédé sexuel. Je sais pas. Voilà, c'est, je me suis dit, ok. Enfin, toi, j'étais fond dedans, c'est du comique, c'est du vaudeville, c'est 50 000 fois en dessous de la ceinture, évidemment. Mais c'est vrai que placer ça en main event, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment la décision qui fait mal, quoi. Et je sais pas, il y avait quoi en face à la télé pour que les mecs nous mettent ça en main event? Il devait y avoir quelque chose, c'est pas possible. Parce que là, clairement, c'était assez ubuesque de se retrouver avec ça en fin de show.
Ouais, ouais, de toute façon, comme d'habitude, il devait y avoir de la NFL en face. Mais même avec de la NFL en face, de toute façon, c'est franchement pas une raison, quoi. C'était catastrophique. Mais comment ils ont. J'ai envie limite de dire que c'est du foutage de gueule, quoi. Moi, en tout cas, moi, je le ressens comme ça devant mon écran quand je vois un truc comme ça dans un main event. Je regarde pas du catch pour avoir un droit à un main event comme ça. Je suis prêt à accepter ce genre de segment en milieu de show, comme je l'ai dit précédemment, mais pas en main event. Là, pour moi, là, c'est une faute impardonnable.
Et aïe. Du coup, j'imagine, chers auditeurs, que vous avez l'argent pour deviner quel serait le flop de notre ami Chris, ou alors il va nous faire un swerve complet, il va nous mettre dans le top. C'est l'heure du mot de la fin, puisque c'est comme ça, malheureusement, que s'est terminé cet épisode de Monday Night Raw. Mon bon Chris, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Bon, bah voilà, bah le suspense est mort, hein, de toute façon. Hein. Voilà, sur ce coup-là, on n'aura pas fait un storytelling extraordinaire, mais bon, bah mon flop, les amis, hein, bien évidemment et bien malheureusement, au main event, voilà, moi je lui mets un carton rouge, mais rouge sang, quoi, rouge sang guignolant. Et vraiment, c'était de la merde, et terminer un Raw comme ça, ah là là, quelle tristesse, quoi. Donc voilà, en plus j'ai une inquiétude, c'est que je me demande si je ne l'ai pas déjà donné la semaine dernière au même, mais j'ai bien aimé le Seth Rollins Rowan, j'ai trouvé ça assez foutraque et assez what the fuck-esque, mais il y a cette histoire quand même de pin, est-ce que ce pin est légal ou pas qui me pose problème, et donc du coup je vais, je crois, à nouveau top à Drew McIntyre versus Ricochet. Et avec tout l'enrobage de fin, avec le RKO porté à Ariki, la totale, quoi. Franchement, j'ai kiffé. Et puis, ce top, il va finalement à l'ensemble du catch qui a été donné à Raw cette semaine, parce qu'on peut dire que l'opener aussi a été également très très bon entre Becky Lynch et Kerry Zane. Les matchs sont quand même beaucoup plus longs qu'à SmackDown, et c'est quand même bien agréable. Le positionnement des Street Profits, voilà, j'ai trouvé qu'on commence un peu à aller vers du booking au-delà de Crown Jewel, et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et donc, du coup, c'était globalement un bon épisode s'il n'y avait pas eu cette histoire de boost de main event. Et du coup, ça m'amène à la note. Et là, alors là, j'ai un vrai problème, quoi, parce que finir le show de cette manière-là me fait baisser la note d'une manière drastique, et pourtant s'il y avait eu juste un petit match random pour finir, j'aurais été assez satisfait. Je crois que j'aurais donné une grosse note, quoi. J'aurais donné un truc comme 3,5 ou 3,75 limite, quoi. Mais là,
Tu finissais avec le False Count Anywhere, c'est comme une grosse stipulation avec ton champion.
Mais oui, en plus avec ta ceinture universelle, quoi, avec ta ceinture majeure, quoi. Donc ça aurait eu de la gueule, quoi. Franchement, là, le show aurait terminé là-dessus. J'aurais dit, ouais, ok, ils se sont sortis les doigts du cul cette semaine, les bookers, quoi. Mais là, ça m'a tellement déçu que je vais leur mettre que la moyenne, quoi. Grâce à Drew McIntyre, à Seth Rollins, à tous ces gars-là, je vais quand même leur mettre un peu. Je vais leur mettre un 2,75.
Quand même, parce que t'as bien kiffé, il faut l'avouer.
Il y a une étoile complète de perdu juste à cause.
Voilà, mesdames et messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire la prochaine fois, ou à ne pas faire plutôt. Alors moi, pour mon flop, ça va peut-être paraître un petit peu dur, mais c'est parce que j'étais vraiment frustré sur le moment. Je vais le donner à la séquence avec les Street Profits. Ces mecs sont over. Ces mecs, je les adore. J'adore le fait qu'ils aient conservé leur entrée où ils passent à travers la foule. Mais c'était tellement vain et tellement creux au final. Il n'y a pas eu de match et j'étais hyper frustré, quoi. Du coup, je leur mets mon flop, mais, euh, Mais c'était un petit flop de frustration personnelle. Quant à mon top, eh ben, tu en as parlé, je vais le donner à l'opener. J'ai adoré cet opener. Je suis pas forcément un grand fan de Page en tant que manager des Kabuki Warriors, mais j'ai beaucoup aimé cette séquence et j'adore le nouveau look de Kairi Sen et le fait qu'elle ait eu un match de 15 minutes contre Becky Lynch. Et toute la colère qu'elle a montrée après, elle n'était pas contente, elle donnait des petits coups de pied là, à Becky Lynch après avoir perdu le match. J'ai vraiment beaucoup aimé visuellement, c'est de la vraie téloche, quoi. Et j'ai adoré ce moment. Ma note, eh ben, c'est un 3 sur 5. S'il n'y avait pas eu ce main event, un peu de choix de main event très discutable, voire honteux pour Chris, on serait un petit peu plus haut. Mais il y a eu beaucoup beaucoup de bonnes choses. J'aurais même pu donner un petit top de catch-up spécial à l'arrivée de Catalina, c'est ça, Catalina. Vraiment une bonne surprise. Donc c'était quand même ma foi un bon épisode, mais visiblement bien plombé par ce main event. Catch Up, votre émission qui résume les shows de la WWE et les analyses. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur toutes les plateformes audio, iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, également sur YouTube. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, nous dire ce que vous avez aimé, votre top, votre flop et votre note. Dites-nous aussi ce que vous pensez de cette grosse annonce de la WWE. Premier match, un match féminin à Crown Jewel. On n'y aurait pas cru, hein. On n'y aurait pas cru encore il y a quelques mois. Mais on y va tout droit. N'hésitez pas également à partager, à parler de catch-up tout autour de vous. Mon bon Chris, je te laisse.
Ça marche, Irem.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Salut, Irem. Salut, peuple de catcheur. Oh, on n'en a pas parlé, mais moi je sais pourquoi Rousseff, il était comme ça. T'as vu un peu la robe qu'elle avait, Lana? Mais comment tu veux pas être accro au sexe dans des conditions pareilles?